CFM, le mag. Le mag. Rediffusion. Le mag. Rediffusion.
Bonjour à tous, c'est le mag Grand Rodez. Bienvenue dans cette nouvelle édition avec bien sûr la suite de nos rencontres avec les candidats au cantonal pour Rodez Est. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Liraud qui est avec Claude Devezin. Dans une deuxième partie, nous ferons la connaissance de la BD chinoise et de son promoteur à l'occasion d'une expo à la médiathèque jusqu'à la fin du mois de mars. Mais tout de suite, Radio Sofa en CFM. C'est le mag Grand Rodez. Vous le savez, depuis le début de la semaine, on découvre les candidats des cantonales à Rodez Est. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Liraud qui est l'invité de Claude Devezin.
CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. CFM.
Eh bien donc, je reçois Emmanuel Liraud, qui est candidat du Front de Gauche, membre du Parti de Gauche. Ce qui éclaire un peu sur la composition du Front de Gauche. Vous nous en direz deux mots, Emmanuel Liraud. Vous avez 38 ans, vous êtes marié, vous avez deux enfants, et je crois savoir que vous travaillez à la SNCF et que vous fûtes militant syndical dans une autre région.
Absolument. Déjà bonjour, dans un premier temps. Oui, en gros, pour vous faire en quelques lignes mon parcours et ma petite bio express, effectivement, je suis issu de la SNCF à Paris-Saint-Lazare, structure dans laquelle j'ai exercé une activité militante et syndicale au sein de la CGT, notamment au niveau de l'encadrement. donc sitôt rejoint la région aveyronnaise, eh ben, j'ai décidé très rapidement de rejoindre la structure du Front de Gauche, a fortiori le Parti de Gauche, pour militer aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et de différents élus sur le département.
Et vous n'êtes vous-même pas élu ? Pour l'instant, vous
absolument
n'avez pas de mandat.
Absolument pas. À ce jour, je n'ai absolument aucun mandat et je travaille à plein temps à l'SNCF avec mes collègues cheminots.
Dans votre, ce qui me sert de support, hein, c'est-à-dire vos documents de campagne, je rappelle que, je m'en veux d'ailleurs de ne pas l'avoir précisé, vous êtes candidat sur le canton de Rodez-Est. Et donc, dans une des premières choses, la première chose même que vous indiquez, c'est de constater que l'Aveyron consacre 16% de moins en budget social que les autres départements. Alors déjà, à quel point vous êtes sûr de ce chiffre-là ? Puis après, vous nous direz ce que peut être un budget social pour le département.
Bon, concernant clairement l'action sociale, hein, qui est la thématique que vous me proposez, nous au Front de Gauche et sur cette cantonale de Rodez-Est, c'est notre priorité. Il s'agit vraiment de renforcer cette action sociale, comme vous l'avez dit, justement. J'ai fait quand même des études, j'ai regardé un peu ce qui se faisait au sein des autres conseils généraux de la région Midi-Pyrénées. L'Aveyron est en retard. Vous avez signalé 16% de moins consacré à l'action sociale que les autres départements de la région Midi-Pyrénées. Sachant que dans un même temps, les Aveyronnais payent 20% de taxes supplémentaires alors que leur revenu moyen est inférieur de 25% à la moyenne nationale. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une action majeure à remplir dans ce Conseil général et donc à renforcer au niveau du budget, l'action sociale de ce département en direction à la fois de la petite enfance, des familles, bien entendu des personnes âgées, j'imagine qu'on y reviendra à travers la dépendance, et les familles, comme je le disais. Donc nous, c'est notre objectif prioritaire, une solidarité de proximité en renforçant le budget du Conseil général concernant l'action sociale.
Concernant le supplément de taxes que paieraient, d'après vous, les Aveyronnais, il tient à quoi ? C'est sur quelles assises qui sont taxées davantage ?
Très clairement, ce sont des choix budgétaires, des choix d'investissement faits par la majorité départementale UMP du Conseil général, en l'occurrence Monsieur Jean-Claude Luche. Il fait des choix, il a des priorités au Conseil général. Nous avons les nôtres, nous les disons. On renforcera l'action sociale en étant un axe majeur de notre campagne. Donc ça veut dire que clairement, nous renforcerons ce budget à minima à hauteur des 16% manquants, et voire plus en faisant des choix d'investissement.
Et à égalité de prélèvement ou pas ?
Absolument, sans aucune fiscalité qui augmentera, absolument. Et ça, je peux vous dire par A plus B, qu'il y a des sources d'économies à trouver. Je vous l'ai dit.
Alors, quelles sont les sources d'économie alors ?
Eh bien, écoutez, dans une première source d'économie, il y en a quatre, en fait. Il y en a deux nationales et deux locales. La première, au niveau national, c'est de prendre ses responsabilités politiques. Nous savons qu'en France, il y a 20 ans, on produisait 1 000 milliards d'euros. La France, de sa richesse nationale, était de 1 000 milliards d'euros. 20 ans après, elle se situe aux alentours de 2 000 milliards d'euros. Ce qui a engendré une perte du travail sur le capital de 10 points. C'est-à-dire que le capital a grignoté 10 points du PIB sur le travail, de ce que gagne le salarié. Donc là, en rehaussant ces 10 points, en rattrapant ce retard, ces 10 points en 20 ans, il y a 195 milliards d'euros à trouver. Pardonnez-moi, ça, c'est le premier point.
Au Conseil général de l'Aveyron, je pense que vous ne pourrez pas grand-chose à cet état de fait.
Directement, non. En revanche, comme je vous le disais en préambule, en prenant ses responsabilités en tant que membre de l'UMP, et nous ici en tant que membre de Front de Gauche, j'alerterai le National, tous les élus du Front de Gauche alerteront le National, pour faire un revirement, pour faire en sorte que cette inégalité des richesses criante soit probante.
Je vous ramène au cantonal, si vous voulez.
Alors, si vous voulez, alors je vais basculer sur le deuxième et le troisième point. Donc, il y a clairement des économies à faire concernant les dépenses superfétatoires, des dépenses de prestige du Conseil général. Je pense en l'occurrence à Micropolis, la Maison de l'Aveyron, à des budgets communication qui, à mon avis, ne desservent complètement les Aveyronnais et les Aveyronnaises. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point nous concernant, c'est les subventions accordées aux entreprises. Fondamentalement, j'y suis pas contre. Ça participe aux investissements, la création d'emplois. Là-dessus, j'ai pas d'état d'âme. En revanche, ce qui me pose un problème, c'est que ces aides du Conseil général aux entreprises ne sont pas conditionnées. Il n'y a rien concernant l'environnement, concernant le social. Donc nous, Front de Gauche, sur cette cantonale de Rodez-Est, nous le disons, nous accorderons des subventions conditionnées à de l'environnement et à du social, à de l'embauche, à de l'emploi. Voilà, on ne va pas donner à fond perdu de l'argent comme ça sans un retour très clairement sur l'environnement et l'emploi.
Voilà. Alors sur l'utilisation,
il y a de l'ordre à peu près de 10 millions d'euros à récupérer.
Sur l'utilisation, notamment de ces 10 millions d'euros, mais sur l'utilisation, les prestations sociales d'une certaine manière du Conseil général. Là, qu'est-ce que vous avez comme objectif ? Est-ce qu'il y aura de nouvelles prestations, de nouvelles choses par rapport à ce qui existe, ou est-ce que c'est simplement un abondement de ce qui existe ?
Premier point sur l'action sociale, nous proposons la création d'une maison de retraite à Combarel. Ça, c'est un point fort. Et deuxième point sur le monastère, des structures d'accueil de jour, hein, qui répondent à une attente très forte des personnes âgées sur notre canton, sachant qu'il y a une tendance au vieillissement, il faudra répondre à cette attente. Donc nous, c'est deux points très majeurs, deux points du programme sur lesquels nous avancerons.
Là, on est dans le social, mais si je comprends bien, sur les prestations délivrées à la personne et aux familles, rien de particulier, à part ces investissements que vous évoquez.
Bien sûr, qui sont majeurs. Croyez-moi, quand il faut réabonder à hauteur de 16%, ça représente une certaine somme d'argent à destination des familles, des petits-enfants, etc. Donc c'est quand même un renforcement budgétaire non négligeable et au service des familles, des personnes en situation aussi de handicap, la petite enfance, etc. Donc on fait des choix budgétaires très clairs qui consistent à renforcer, au-delà de ce que fait M. Luche de l'UMP, qui est une politique sociale à minima.
Alors, dans vos documents de campagne, vous évoquez aussi un plan écologique départemental. Et vous dites, par exemple, on pourrait réduire la facture énergétique en améliorant l'isolation. Vous dites des habitations, je pense qu'il y a aussi des bâtiments publics cachés. Mais vous dites, par exemple, alors quelles sont les autres possibilités que vous imaginez d'amélioration écologique ?
Alors nous, il y a un soutien, outre ce que vous venez d'annoncer, hein, qui consiste à c'est un plan département de prenant départementalisation des bâtiments. Nous proposons également de mettre en place une interprofession départementale de l'agriculture biologique. Il s'agit en l'occurrence de mettre en liaison les acteurs des marchés et les producteurs. Tout simplement pour inverser la tendance de l'agriculture industrielle et passer à de manière transitoire une agriculture raisonnée, biologique. Et tout cela, bien entendu, en aidant nos agriculteurs. Il s'agit à la fois d'un soutien financier, d'un soutien d'expertise, d'études, de diagnostic. Tout cela ne se fera pas du jour au lendemain. Mais voilà nos perspectives en ce qui concerne l'agriculture, c'est de passer d'une agriculture industrielle à une agriculture bio.
Emmanuel Liraud, on est pratiquement au terme de notre entretien et j'ai coutume dans ces cas-là de dire à mon interlocuteur, il vous reste une minute, elle est à vous, tout à vous, pour dire ce que vous souhaitez dire. Nous n'avons pas évoqué l'aspect de vos développements associatifs, mais c'est une minute qui vous appartient.
Écoutez, si j'avais un point à faire ressortir de mon programme, de notre programme du Front de Gauche, qui me tient particulièrement à cœur, il s'agit de rendre sur Rodez, notamment au centre-ville, de rendre les jardins de l'évêché aux Ruthénois. Car c'est un jardin public qui appartient au Conseil Général de l'Aveyron. Donc nous prenons un engagement ferme, Front de Gauche, si je suis élu au soir du 20 mars, nous rendrons aux Ruthénois les jardins publics de l'évêché.
Bien, écoutez, c'est votre conclusion. C'était donc la fin de notre entretien. Donc, je m'entretenais avec Emmanuel Liraud, candidat à l'élection cantonale sur le canton de Rodez-Est et candidat du Front de Gauche. Merci.
Merci à
Emmanuel
vous.
Liraud.
À bientôt.
Et demain, pour le dernier épisode de la série spéciale cantonale, Gérard Galtier sera avec Claude Devezin. Et puis, nous jetterons aussi un coup d'œil du côté du canton de Salvetat-Perales avec Catherine Ichard.
CFM sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.
Dans un instant, nous serons avec Patrick Abri, éditeur et pionnier de la bande dessinée chinoise, qui fait l'objet d'une exposition à la médiathèque de Rodez jusqu'au 31 mars. Mais tout de suite, Guns N' Roses.
No, it's not.
C'était Chinese Democracy des Guns, la Chine et sa BD. On en parle maintenant dans le mag Grand Rodez. Le manhwa bande dessinée chinoise est en expo à la médiathèque de Rodez, hein, bien sûr, jusqu'à la fin du mois. Son premier promoteur, Patrick Abri, édite depuis Figeac. Les dessinateurs chinois, et entre le manhwa que peu connaissent et le manga japonais que tout le monde connaît, il y a une grosse différence.
Alors ça n'a pas forcément à voir, mais c'est plus une volonté éditoriale qu'un reflet exact du marché chinois. Aujourd'hui, le marché chinois est centré presque exclusivement sur des publications pour la jeunesse, parce qu'il y a une censure qui est relativement forte, et un marché qui est en fait relativement jeune, puisque le premier magazine de bande dessinée est sorti en 93, donc on a ça à 18 D'accord. ans. Bon, ils ont, on va dire, 50 ans de retard, sans que ce soit péjoratif, mais ils ont 50 ans de retard par rapport à la maturité des Japonais, des Américains ou des Français, quoi. Donc, ils ont aujourd'hui, sur leur marché intérieur, ils essayent en priorité, les éditeurs essayent en priorité de faire de la copie de manga. Alors, chose que je n'ai pas encore précisé, mais les éditeurs en Chine sont tous nationalisés. Il n'y a pas d'éditeur privé.
D'accord.
Donc il n'y a pas d'initiative privée. Il n'y a pas vraiment d'éditeur comme moi qui va prendre le risque d'aller sur un auteur, d'investir dessus, de faire sa promotion. Ils prennent le moins de risques possible. Moi, j'ai pris le parti inverse, qui est justement de ne pas faire comme tout le monde et d'essayer de mettre en avant des artistes qui ont des particularités graphiques et qui ont, si possible, des choses à dire qui ne sont pas celles qu'on trouve sur le marché chinois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les nouveaux projets sont des projets qui n'existent pas en Chine.
Ce que l'on peut voir notamment à l'exposition de la médiathèque de Rodez, les planches proposées, l'échantillon que vous nous proposez, c'est plutôt, c'est pas Tintin et Milou, c'est plutôt de la bande dessinée adulte, voire même un télo.
Oui, pour la même raison que j'évoquais précédemment, c'est que je cherche pas à prendre ce qui existe sur le marché, qui est de la bande dessinée pour les jeunes, qui est déjà largement battu et rebattu sur le marché français. Je cherche justement à montrer des choses qui sont particulières. Donc les deux expositions, parce qu'il y a deux expositions qui sont couplées à la médiathèque de Rodez. Il y en a une sur un album qui s'appelle Chronique de Pékin, qui est un projet qu'on a monté entièrement avec 10 artistes à l'occasion des Jeux Olympiques, où on a demandé aux artistes de raconter une histoire liée aux mutations de la ville de Pékin. Et le deuxième album, lui, est encore plus caractéristique, puisque c'est le dernier qui est sorti chez nous, qui s'appelle Maruta 454. Alors, c'est un titre japonais. Maruta voulant dire cobaye, enfin bio et cobaye en japonais. Alors lui est inspiré d'une histoire vraie. Elle était scénarisée par un scénariste québécois, mais dessinée par des Chinois, et raconte la vie dans les camps d'expérimentation japonais en 1934, puisque les Japonais ont envahi le nord de la Chine dans les années 30, et ils ont créé des camps, soi-disant des camps de travail, mais qui étaient en fait des camps dans lesquels ils expérimentaient les armes bactériologiques et chimiques sur des cobayes chinois.
Cette bande dessinée chinoise dont vous êtes le promoteur, hein, je le rappelle, Patrick Abri, directeur des éditions Xéopan, comment elle est reçue dans le milieu de la bande dessinée traditionnelle, entre guillemets, en France notamment, en Belgique? Qu'est-ce qu'ils en pensent?
Alors, ce qui ressort de façon unanime, c'est la qualité graphique des auteurs. Ça, on a marqué les choses. On a des auteurs comme Benjamin, dont je citais tout à l'heure, qui sont à la limite entre la bande dessinée et l'art moderne, et qui est maintenant en train même de basculer plus sur l'aspect art moderne. Le graphisme, là, fait l'unanimité avec des gens qui ont vraiment des styles particuliers, c'est-à-dire qui ressemblent à rien d'autre, quoi. Ils ont une patte d'artiste qui leur est propre, qu'on reconnaît quand on voit leurs œuvres, comme les grands artistes. Et il y a un vivier de grands artistes en Chine extraordinaire. Et ce que disent aussi tous les lecteurs, les professionnels comme lecteurs, c'est qu'effectivement, le point faible, c'est le scénario. Donc il faut qu'on arrive à remonter le scénario pour avoir une qualité qui soit vraiment au top. Et il y a une vraie attente du public aujourd'hui pour avoir de la bande dessinée asiatique qui se démarque de ce qui est aujourd'hui sur le marché, que ça vienne de Corée ou du Japon.
Les albums, les bandes dessinées chinoises que vous éditez, elles sont faciles à trouver dans le commerce?
Alors, on est distribué d'une façon nationale, on a un distributeur national, on a changé l'année dernière pour des raisons diverses, mais oui, vous pouvez le commander à votre libraire, vous pouvez le trouver sur Internet, on a une boutique en ligne.
www.xiaopan.com.
Exact, d'accord. Voilà, tout à fait. Et cela dit, très peu de libraires les ont en stock, à part quelques-uns qui nous défendent de façon... de façon forte, puisqu'il y en a qui ont vraiment eu le coup de foudre pour nos collections, donc qui ont à peu près tout ce qu'on a. C'est plus facile de les trouver sur Internet que de les trouver chez son libraire.
Mais le principal pour vous, c'est des sorties ? Il y a un programme ?
Alors, j'ai réduit de beaucoup le nombre de sorties. La première année, j'ai sorti presque 30 titres. La deuxième année, un petit peu moins. Et je me suis rendu compte que, du fait de la saturation du marché et de la difficulté à se faire reconnaître, de se faire une marque, de se faire un nom dans le métier, c'était beaucoup trop. Donc je suis revenu à un rythme raisonnable de 5 titres pour le moment, 4 à 5 titres par an, avec l'objectif de passer à 8 à 10, mais grand maximum dans un avenir proche. La raison, c'est que je suis obligé maintenant de construire des projets de A à Z. Quand je suis arrivé, j'ai pris des bouquins qui existaient, je les ai fait traduire et imprimer, donc là, le temps est relativement court. Maintenant, comme les deux projets qui sont exposés à Rodez, c'est des projets qu'il faut construire, donc il faut entre 6 mois et 1 an pour les mettre sur pied. Et j'ai pas mal réduit. Donc il y a deux albums, les deux prochains albums qui sont prévus, il y en a un qui est une histoire du rocher de Monaco, donc ça n'a rien à voir avec la Chine.
Ah oui, donc.
C'est complètement atypique, mais c'est un des descendants de la famille Grimaldi et un scénariste, ils étaient tous les deux copains, ils sont venus me voir un jour. En fait, ils traînaient sur le Salon du Livre il y a 2 ans, à Paris, et ils cherchaient un dessinateur pour mettre en image une histoire du rocher de Monaco. D'accord. Et puis ils sont arrêtés sur mon stand, et puis ils n'en sont pas repartis. Voilà, donc on a travaillé sur le projet, là le projet est presque fini de dessiner, et normalement l'album devrait sortir fin avril, début mai, le premier album, parce qu'il y aura une trilogie. Et donc, mais dessiné par des Chinois, puisque je n'édite que des albums dessinés par des Chinois. Donc c'est une sorte de croisement franco-monégasco-chinois, c'est assez rigolo. Il y a des choses assez marrantes.
C'est un drôle de cocktail.
Oui, c'est un drôle de cocktail. D'ailleurs, il y a des coquilles qu'on va laisser dans l'album, parce qu'il y a une vision de Monaco ou de l'histoire de France, puisque c'est lié aussi à l'histoire de France, qui est parfois un peu particulière ou un peu décalée, mais il y a des choses qu'on va laisser. Il y a des choses que j'ai fait corriger parce que c'était trop gros, mais il y a des choses qu'on va laisser parce que c'est assez fun, en fait. Donc ça, voilà. Et le suivant, c'est un album qui, lui, par contre, est paru en Chine, qui s'appelle Coco en Angleterre, et ce sont les souvenirs d'une jeune artiste chinoise qui a 15 ans, est partie à Londres, alors qu'elle n'était jamais sortie de son pays, est partie à Londres pour apprendre l'art. Et elle raconte ça sous forme de récit très très proche du blog. C'est un dessin très très simple où elle se caricature à chaque page. Ce sera un gros bouquin, ça fait 360 pages. Donc c'est une histoire complète. C'est paru en 3 tomes en Chine, mais nous on a tout regroupé sous un seul pour en faire un vrai roman graphique. Et c'est très très drôle, très amusant. Donc voilà pour les deux prochaines sorties.
Et pour plus d'infos et acheter les BD, édité par Patrick Abri, une bonne adresse, www.xiaopan.com. Vous avez aussi bien sûr l'exposition à la médiathèque jusqu'au 31 mars pour vous faire une idée. On se retrouve demain bien sûr pour de nouvelles aventures. Bonne fin de journée en CFM.